Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Aujourd'hui, à Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, s'ouvre le centre consacré à l'esclavage et à la traite négrière. Cela s'appelle Memorial Act et Franck Ferrand a fait le voyage pour le visiter. Bonjour Franck.
Bonjour Ombline, bonjour à tous. Je profite de cette émission pour saluer tous nos auditeurs des Antilles. Vous savez que les médias ont beaucoup parlé de Memorial Act il y a 2 mois. C'était le 10 mai, au moment de l'inauguration de ce centre d'interprétation et de tout ce qui va avec par le président de la République. Seulement, la plupart n'en ont parlé, disons-le, que d'un peu loin. Eh bien nous, cet après-midi, nous allons nous en rapprocher. Nous sommes allés, avec Christophe Dard et avec Lorena Martin, nous sommes allés sur place le week-end passé. Nous avons visité Memorial Act, nous avons refait le chemin de l'esclavage, etc. Et ce sont les témoignages que j'ai recueillis sur place que je vous propose d'entendre. En tout cas, vous allez entendre l'essentiel de tout ce qu'on nous a raconté.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Michel sur les édifices dont le style et la forme évoquent la fonction.
Ah mais ça, c'est une question très pointue qui concerne d'ailleurs Memorial Act. Pour le moment, nous mettons le cap plein ouest à travers l'Atlantique jusqu'aux Antilles, jusqu'à cette île en forme de papillon qu'on appelle la Guadeloupe.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je vous invite à embarquer au cœur des Caraïbes pour l'un des points cardinaux des petites Antilles, un de ces éclats de France bien éloignés de la métropole. Je vous invite à découvrir une île bénie des dieux, avec sa grande terre à l'Orient, sa basse terre au Ponant, celle-ci plus verte, mieux irriguée d'eau vive, plus accidentée autour du piton volcanique de la Soufrière. Et puis celle-là, donc la Grande Terre, semée de vieux moulins, de plantations de canne à sucre, de plages blanches ourlées de turquoise et envahies de palmiers et d'agaves, des plages où fraient volontiers les iguanes. En cette saison, en ce début d'été, l'île est illuminée de halos rouges vifs comme des nuées d'ailes vermillons en suspension. Ce sont les fleurs de ces arbres qu'on appelle ici les flamboyants. Ça fait des taches rouges sur toute l'île, c'est absolument magnifique. C'est cette île où l'on chante le guoca, bien entendu, on a eu une démonstration phénoménale, où l'on danse la biguine, où l'on déguste les bananes salées et les poulets sucrés. Cette île à la fois douce et rugueuse, accueillante et colérique, cette île émolliente comme la vanille et tonique comme le rhum, cette île, c'est évidemment la Guadeloupe. D'où lui vient ce nom ? D'Espagne, figurez-vous, d'Estrémadour, du monastère de la Vierge Noire de Guadalupe, à laquelle Christophe Colomb avait promis une action de grâce. Le 4 novembre 1493, la flottille, la nouvelle flottille de l'explorateur, je dis la nouvelle parce que c'est son deuxième voyage, faut imaginer 17 navires, 1500 hommes, cette flottille arrive en vue de la grande île que Colomb, fidèle à sa promesse, nomme Santa Maria de Guadalupe. Il débarque à Basse-Terre et on peut dire que là-bas sur place, le souvenir de ce débarquement reste présent. Alors, dans tous les siècles qui vont suivre, les petites Antilles avec leurs plantations d'abord de tabac et puis bientôt et surtout de canne à sucre vont devenir une des plaques tournantes de la terrible traite négrière, du commerce triangulaire, de l'esclavage. Elles vont devenir un archipel de la colonisation où devait s'effectuer, nous dit Ali Moussaï Iye, je le cite, la plus importante déportation forcée d'hommes, de femmes et d'enfants. J'aurais tendance à nuancer l'une des plus importantes, le plus vaste et le plus intensif commerce d'êtres humains, la plus longue perpétration d'un crime contre l'humanité et le plus long déni avant de le reconnaître comme tel, ce crime. Il se trouve que c'est le président de la région Guadeloupe, le député de la Guadeloupe et ancien ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, que vous connaissez, Ombline. C'est Victorin Lurel qui a porté personnellement le projet de ce Memorial Act que nous allons découvrir ensemble. Je lui ai justement posé la question de la dimension quasi personnelle de ce projet.
On a mis 8 ans pour faire cette œuvre-là qui prend en général près de 15 ans. Donc on a fait relativement vite, et je crois pouvoir dire qu'on a fait bien. Ensuite, ce serait présomptueux de dire que j'ai été seul à porter ça. J'ai eu à dire, et je le redis ici, que c'était une coproduction. C'est une coproduction guadeloupéenne. Beaucoup de gens l'ont porté avant, ont ruminé la chose. l'ont présenté un peu partout. Il y avait même eu, bien avant moi, une première pierre qui avait été posée aux Abîmes. Ça ne s'est pas fait. 10 ans après, ça ne s'était pas fait. Moi, j'ai été élu en 2004. En octobre 2004, je fais un discours pour dire « mais on le fera ». Et là, on a créé un comité scientifique pour porter ça. Et puis, on a mutualisé toutes les idées, tous les projets. Et c'est vrai qu'il y a eu un projet alternatif porté par des nationalistes, disons ça comme ça. Et puis, on a mutualisé tout ça. Et j'ai choisi ici, avec le maire de Pointe-à-Pitre, le lieu. Ça me paraissait plus emblématique, plus symbolique, plus beau après rénovation. Et je crois que le résultat est à la hauteur de nos espérances.
Et quel est le message de ce lieu ?
Alors, toutes les sociétés qui ont porté l'esclavage sont obsédées par la question de l'esclavage et de la filiation. Et en même temps, il y a cette difficulté pour se reconnaître dans des ancêtres qui ont été esclaves. Et donc, il y a cette difficulté d'affiliation. J'appelais ça de coalescence. Et il fallait trouver une sorte de catharsis, bref, un vecteur pour dire vous n'avez pas à avoir honte de vos origines. Mais en même temps, s'il faut savoir d'où l'on vient, c'est pas non plus, ça ne doit pas être une obsession de vouloir s'enfermer dans un passé ou dans son passé. Il faut l'assumer, le transcender et s'ouvrir aux autres. C'est ça le message du Memorial Act, de dire « bon, ça c'est fait, c'est une ignominie, ce sont des horreurs », et que par ailleurs, ça reste une question actuelle. L'esclavage, contrairement à ce que l'on croit, eh bien, n'a pas totalement disparu à la face du monde. On appelle ça l'esclavage moderne, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs le moderne, mais le travail forcé, la traite des femmes, l'arrachement des filles, on le voit par des groupes terroristes, disons ça très clairement, c'est une autre forme d'esclavage. Ce qui se passe en Méditerranée aujourd'hui, c'est quelque part encore l'Afrique, avec des moyens modernes, autrement plus puissants. La question reste actuelle.
La question reste actuelle ô combien et malheureusement. Dites-vous qu'aujourd'hui, après 8 années d'efforts, il est là ce monument phare de la Guadeloupe et des Antilles, une sorte de grande arche vif-argent ouverte sur la mer. Nous allons bientôt y pénétrer. Avant cela, je me permets de vous raconter l'histoire d'un personnage extraordinaire. J'ai jamais eu l'occasion de le faire à ce micro, il fallait le faire un jour. C'était le jour ou jamais. Nous allons parler dans un instant de Louis Delgrès.
Sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Amistad de Steven Spielberg, une musique signée John Williams. On vous retrouve, Franck Ferrand, pour évoquer l'une des figures emblématiques de la lutte contre l'esclavage, Louis Delgrès.
Et oui, Delgrès qui était né libre, il faut le dire. Il a combattu pour les valeurs de la Révolution française, de la République, et il a connu, lui, la première abolition de 1794. Il avait quel âge ? Il avait 28 ans à ce moment-là, puisqu'il était né à l'été 1766, non pas à la Guadeloupe, mais en Martinique, à Saint-Pierre, en Martinique, d'un père qui était un créole blanc, receveur du roi et directeur des domaines du roi, notamment à Tobago, et d'une mère qui était mulâtresse, Élisabeth Morin, dite Guibi. Il était donc né, lui, libre de couleur, et il a reçu une éducation de qualité. Il avait une excellente maîtrise de la lecture, de l'écriture, du calcul, etc. C'est en tout cas ce que vont révéler ses états de service. Je parle d'état de service parce que dès 17 ans, Delgrès commence une carrière militaire. On est en novembre 1783, donc sous le règne de Louis XVI. Il entre dans la milice aux colonies et 8 ans plus tard, il sera nommé sergent en garnison à la Martinique. C'est l'époque où les royalistes sont en train de prendre le pouvoir sur l'île. Louis Delgrès s'exile à la Dominique, qui est une petite île située quelque part entre la Martinique et la Guadeloupe. Et un an plus tard, en octobre 1792, il va participer à l'élection des députés des îles du Vent. Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Tobago, des députés qui vont siéger à la Convention nationale. À la fin de 92, Delgrès rejoint les rangs des Républicains. Il monte à bord de la Félicité. Il est élu à ce moment-là, provisoirement, lieutenant par ses concitoyens, puis capitaine à titre provisoire. Et c'est à peu près à ce moment, c'est en février 1794, qu'est signé ce décret abolissant l'esclavage. L'idée, c'était, disons-le très largement, de rallier les Noirs à la cause de l'État colonial français, de créer l'union contre les ennemis anglais et espagnols. Peu importe, en tout cas, il y a cette abolition incontestablement. En Guadeloupe, Delgrès dès lors doit faire face aux attaques anglaises. La forteresse du fort Fleur d'Épée au Gosier sert à défendre la rate de Pointe-à-Pitre. Seulement les combats sont particulièrement acharnés, plutôt favorables aux Anglais. Le 10 avril, le général anglais Grey s'empare du fort et donc de Pointe-à-Pitre. À ce moment-là, Delgrès est capturé. Il est emmené en Grande-Bretagne, mais assez rapidement, il va être libéré. Il rejoint la France. L'île est bientôt reprise aux Anglais et le 7 juin, donc, l'abolition de l'esclavage va pouvoir entrer en vigueur à la Guadeloupe. Pendant ce temps-là, Delgrès est en France. Il est à Brest, où il reçoit son brevet de lieutenant lors de la formation du bataillon des Antilles. On est là donc à la fin de l'année 1794 et quelques semaines plus tard, en janvier 95, le voilà qui revient à la Guadeloupe. Il ne va pas y rester très longtemps parce qu'il faut aller reconquérir l'île de Sainte-Lucie. Il va se distinguer d'Elgrès au cours de cette campagne. Mais d'ailleurs, il est grièvement blessé. C'est lui qui hisse le drapeau tricolore au moment de la bataille du Morne-Rabot. Enfin, voyez, il devient une sorte un peu de héros, il faut bien le dire. Et le 25 juin 1795, il est nommé capitaine. Le lendemain, il embarque pour Saint-Vincent où il combat aux côtés de métis amérindiens. Et en juin 96, il est capturé pour la seconde fois en 2 ans par les Anglais. Le revoilà dans les prisons britanniques. C'est incroyable, d'ailleurs, les carrières de ces gens des colonies ballottés dans ces guerres de la Révolution. Un petit peu plus d'un an plus tard, en septembre 97, il va faire néanmoins l'objet d'un échange de prisonniers. Et le voilà qui débarque au Havre. Le 1er octobre 1799, il est nommé chef de bataillon et il revient en Guadeloupe. Quand il arrive dans l'île, il est aide de camp d'un agent du directoire qui s'appelle Baco. Alors, quelle est la situation de la Guadeloupe depuis l'abolition de l'esclavage 5 ans plus tôt? Faut vous dire que, évidemment, d'abord la Guadeloupe est la seule île des Petites Antilles où la liberté des esclaves a été proclamée, sauf que cette abolition, disons-le, elle est largement fictive. Les autorités substituent le travail forcé à l'esclavage et les nouveaux libres subissent toujours la répression des maîtres. En fait, d'un point de vue tout à fait concret, ça n'a pas changé grand-chose à leur situation. D'autre part, la population blanche conserve l'essentiel de sa puissance économique. Elle tient complètement ces Petites Antilles. Les révoltes sont réprimées dans le sang. Seule l'armée, à l'époque, pour un ancien esclave, seule l'armée peut être une voie d'affranchissement. Les esclaves ne peuvent cependant plus être vendus, faut le dire. Ils sont autorisés à acquérir des biens, et pour cause. Ils peuvent maintenant se marier, divorcer librement. Ce sont quelques acquis, des acquis, qui très bientôt vont être remis en cause de l'autre côté de l'Atlantique par un certain Bonaparte. Pour lui, la Guadeloupe, qui est libre depuis 1994, ne peut pas être la seule île des Petites Antilles où la liberté des esclaves ait été proclamée, alors que la Martinique reste une colonie à esclaves. Voilà ce que nous dit René Bellénus. La menace d'un rétablissement de l'esclavage pèse donc en permanence au sein de la société guadeloupéenne. Chaque nouvel administrateur, chaque général arrivé de France est soupçonné d'en avoir reçu la mission. Vigilance et méfiance sont donc de rigueur, surtout au sein de l'armée de couleur, ce qui justifie le renvoi de l'île de ceux qui ont une attitude jugée équivoque. Vous voyez qu'on est quand même dans une période où, si l'esclavage a été aboli, il ne l'est vraiment qu'à moitié, même je dirais au quart. Voilà la constitution de l'an 8, 13 décembre 99, qui met fin à la politique d'assimilation. En avril 1801, Bonaparte fixe une nouvelle organisation. Il nomme un nouveau capitaine général. C'est Lacrosse, un ancien jacobin, porte-drapeau des idées révolutionnaires dans les Antilles, qui maintenant est devenu un bonapartiste zélé. Et sa mission, disons-le clairement, sa mission, c'est de rétablir progressivement l'esclavage. Voilà ce que déclare Bonaparte. « Je veux des esclaves dans les colonies. La liberté est un aliment pour lequel l'estomac des nègres n'est pas préparé. Je crois qu'il faut saisir toutes les occasions pour leur rendre leur nourriture naturelle, sauf les assaisonnements que commandent la justice et l'humanité. Voilà des phrases qui sont écrites et qui restent gravées à jamais. Ça n'est pas très bon pour la mémoire de Bonaparte. Ça n'est pas très bon pour, d'une façon générale, l'image de la France.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Il était l'un des symboles de la lutte pour la liberté et contre le rétablissement de l'esclavage dans les îles françaises de la Caraïbe. Vous nous racontez, Franck Ferrand, le destin de Louis Delgrès.
Oui, il faut imaginer ce qui se passe là-bas sur place, bien entendu, puisqu'il y a ces rumeurs de rétablissement de l'esclavage qui s'amplifient. Et évidemment, notamment pour tous les militaires de couleur, il n'est pas question de laisser faire ça. Il va y avoir un putsch, figurez-vous, un putsch militaire qui est conduit par Joseph Ignace, un ancien charpentier devenu capitaine, qui est soutenu par des marins, par des corsaires, et qui va destituer la crosse. La crosse est emprisonnée dans un premier temps, puis il est carrément chassé de Guadeloupe. Il va aller se réfugier sur une île voisine de la Dominique, où pendant plusieurs mois, il enverra des rapports terribles au premier consul en lui disant « Attention, c'est très grave, ce qui se passe ici est terrible, etc. » Alors, Ignace vient voir Delgrès et lui dit que c'est l'heure du choix. Ou bien, il choisit les rebelles, ou alors il sera expulsé, exactement comme la crosse dont il a d'ailleurs été l'aide de camp. Et Delgrès se rallie aux officiers rebelles. Il est maintenant le numéro 2 du gouvernement autonome de la Guadeloupe. Il a été nommé chef de la place de Basse-Terre. Là, je parle de la ville de Basse-Terre, dans l'île de Basse-Terre, bien sûr. Et pour asseoir son autorité, il va destituer un certain nombre de fonctionnaires qui étaient proches du général Lacrosse. De l'autre côté de l'Atlantique, on est en train de tout faire pour rétablir l'esclavage, bien entendu. Il faut vous dire qu'on a signé un traité de paix avec les Anglais, hein, la paix d'Amiens, en 1802, donc, ce qui va permettre de lancer une expédition, un peu à l'image de celle que Bonaparte avait lancée pour soumettre Toussaint-Louverture à Saint-Domingue, voyez bien. Le matin du 6 mai 1802, les Guadeloupéens aperçoivent au large de leur côte une flotte de 14 navires, 3500 hommes de l'armée du Rhin sous la direction du général français Antoine Richepanse. Cette flotte, elle se dirige vers eux, bien entendu. Alors, à ce moment-là, les officiers de l'armée de couleur décident de déserter. À leur tête, Joseph Ignace, chef de bataillon, commandant du fort de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Et puis, ses compagnons d'armes, 350 grenadiers en armes et des civils, dont beaucoup de femmes. Leur but, c'est d'aller rallier Basse-Terre, où ils doivent retrouver Louis Delgrès. Alors, ils atteignent Petit Canal aux environs de minuit. On traverse comme on peut, de nuit, en canot, le Lamantin. On marche pendant deux jours sur la côte, sous le vent, jusqu'à la ville de Basse-Terre, et dans la nuit du 8 au 9 mai 1802, donc, Ignace arrive à Basse-Terre où il retrouve Delgrès qui, dans un premier temps, se montre quand même sceptique. Il accepte finalement d'entrer en rébellion aux côtés d'Ignace. Il refuse le débarquement de Richepanse et de ses hommes. Ça va être le début de ce qu'on a appelé la guerre de la Guadeloupe. Alors, dès le 10 mai 1802, Delgrès a justifié son combat, je le cite, comme la résistance à l'oppression. Sa proclamation, il l'appelle le dernier cri de l'innocence et du désespoir. Il s'adresse directement à Napoléon Bonaparte. « Et vous, premier consul de la République, écrit-il, vous, guerrier philosophe de qui nous attendions la justice qui nous était due, pourquoi faut-il que nous ayons à déplorer notre éloignement du foyer d'où partent les conceptions sublimes que vous nous avez si souvent faites admirer ?» Ça, ce sont les mots, bien entendu, le jour même de la proclamation, les premiers combats s'engagent. 600 soldats de Richepanse sont repoussés par les hommes de Delgrès au Morne Soldat, une petite montagne qui culmine à 820 et quelques mètres d'altitude. Et deux jours plus tard, les femmes guadeloupéennes vont s'engager dans la bataille. Elles infligent de lourdes pertes aux soldats français. Le 14 mai, Richepanse ayant bénéficié du soutien d'une puissante artillerie fournie par les Anglais, c'est le début du siège du Fort Saint-Charles, où Delgrès s'est retranché avec ses hommes. Cette forte elle a été construite au XVIIe siècle pour défendre la rade de Basse-Terre contre d'éventuelles attaques anglaises. Et d'ailleurs, c'est exactement au moment où commence ce siège, c'est le moment même où Napoléon Bonaparte rétablit l'esclavage. On est le 20 mai. Alors, dans la nuit du 22 au 23 mai, après 10 jours de combats acharnés, les rebelles sont à court de munitions. Alors, ils vont évacuer le Fort Saint-Charles de nuit par une petite porte percée dans le parapet qui surplombe la rivière. Ignace opère une manœuvre de diversion pour aller chercher des renforts en grande terre, tout en contraignant l'ennemi à disperser ses forces. Les insurgés, à ce moment-là, se séparent en deux groupes, seulement tout se complique. Le 25 mai, alors que les troupes assiègent la redoute de Bainbridge, Joseph Ignace se suicide d'une balle dans la tête. Ses deux fils également vont mourir. L'un est tué à ses côtés, l'autre est capturé et fusillé le lendemain. Et ses 675 compagnons sont également massacrés. Que reste-t-il de l'autre côté dans, dans le deuxième groupe, celui de Delgrès? Ben, là, la situation est tragique. Rich pense à 1800 soldats postés contre les 400 de Delgrès, qui est blessé, qui va crier, vous savez, son slogan, celui des sans-culottes, « Vivre libre ou mourir ». Les Guadeloupéens résistent malgré tout. Ils parviennent à se déplacer jusqu'à l'habitation d'Anglemont. On est là sur les hauteurs de Matouba. Évidemment, Delgrès et ses compagnons savent très bien que c'est la fin. Des barils de poudre ont été installés là. Ils attendent l'arrivée des soldats français. Parmi eux, il y a Toto, Marthe Rose, dite Rose Toto, la maîtresse de Delgrès. C'est un moment de fin du monde, en quelque sorte. Vous savez, quand on voit l'ennemi se rapprocher, le 28 mai 1802, après 18 jours de combat, les troupes consulaires vont lancer l'assaut final. Delgrès et ses 400 compagnons font sauter littéralement l'habitation d'Anglemont en criant « Vive la liberté !» Évidemment, ils sont au cœur même du dispositif, autant dire qu'ils se font exploser eux-mêmes. Ils sont restés fidèles à leurs paroles, à leurs cris de désespoir ou d'espoir, comme vous voudrez, vivre libre ou mourir.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, et nous vous retrouvons, Franck Ferrand, le teint légèrement hâlé après votre séjour en Guadeloupe.
Mais évidemment, et vous savez que le président de Memorial Act s'appelle Jacques Martial. Certains d'entre vous le connaissent, c'est un comédien célèbre. Je lui ai demandé pourquoi ce nom à consonance anglo-saxonne, Memorial Act.
C'est un nom à la dimension du monde, mémorial pour la mémoire, pour l'histoire, pour cette photographie d'un moment qui, non pas s'oppose, mais qui fait écho ou qui est inversé par le acte, qui lui est mouvement, est action et projet. Un acte avec un E, parce qu'il s'agit d'une histoire de la francophonie. C'est la dimension francophone de l'approche du Memorial Act et de la dimension, de la réalité de la francophonie dans cet espace caribéen. Donc c'est ce dialogue entre mémoire, entre histoire et entre action. Ne pas rester figé dans le passé et pouvoir se projeter dans une dynamique.
Alors, quel est le sens de cette institution? Quel est le sens de Memorial Act?
Le Memorial Act a vraiment vocation à construire un nouvel humanisme. Alors, comment le construire? Tout d'abord, en apprenant à connaître cette histoire que nous avons en partage, qui est un élément essentiel de notre histoire contemporaine. De le connaître, donc, de l'apprendre, et à partir de là, de pouvoir reconstruire les bases d'un nouveau dialogue interculturel, une nouvelle relation entre citoyens du monde, caribéens, européens, américains, et nous projeter ensemble dans un futur, mais apaisé les douleurs de cette histoire, qu'elle les trace de cette histoire qu'elle a laissée, d'en être apaisé, de pouvoir nous projeter dans une dynamique nouvelle.
Que vous disent les Guadeloupéens lorsque vous les rencontrez? Ils sont contents de cette nouvelle institution? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion déjà de se l'approprier?
Alors, ils se l'approprient à partir d'aujourd'hui. Je crois qu'il y a une grande interrogation. C'est un événement tellement bouleversant qu'il bouleverse nos habitudes, qu'il y a là un regard, un désir d'entrer enfin, de comprendre ce cadeau formidable qui est fait à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens, de le comprendre, de se l'approprier. Je crois que c'est cela profondément, cette excitation, cette impatience.
Ce cadeau formidable, comme dit Jacques Martial, n'a pas été implanté n'importe où, mais sur ce qu'on appelle désormais le morne mémoire, à l'emplacement de l'ancienne friche industrielle de Darboussier. Voilà ce qu'en dit l'un des architectes, Fabien Doré.
Ce morne, c'est aussi tout un symbole, c'est vraiment le symbole du patrimoine, à la fois bâti par la présence de la vinaigrerie, mais aussi le symbole de ce qu'était la topographie de Pointe-à-Pitre. Il faut savoir que Pointe-à-Pitre, à l'époque, c'était une série de mornes, quoi, qu'on a rasé pour que la ville puisse bien évidemment s'étendre.
Parmi les vestiges, on voit ces figuiers qu'on appelle ici des figuiers maudits, dont les racines aériennes tiennent la pierre en quelque sorte, s'agrippent à la muraille et la retiennent.
Alors, tout ce projet reprend cette symbolique. Ce projet, c'est Silver Roots on a Black Box, les racines d'argent sur la boîte noire. Et donc, comme le figuier maudit, c'est-à-dire qu'à la fois, ce figuier, il prend racine sur le patrimoine, sur la culture, et puis il s'élève vers le ciel pour amener la vie. Et puis, à la fois, il enserre des anciens murs de pierre et les protège. Donc ce bâtiment, c'est toute la symbolique de s'élever vers la vie, le devenir, à partir du socle de l'histoire, de la culture et de cette histoire tragique qui a été la traite et l'esclavage.
Il peut même trouver un éclat supplémentaire grâce aux lumières. Vous avez organisé tout un concert lumineux.
On a une animation nocturne qui permet à la fois de mettre en valeur le bâtiment, de créer aussi une espèce de rituel. C'est-à-dire que le soir, on imagine bien, à travers ce vaste espace public, que les gens pourront venir déambuler et puis profiter de ce spectacle. C'est aussi, sur la façade maritime, le chenal où passent tous les croisiéristes. Et donc, ce bâtiment restera allumé jusqu'à 1h du matin, de façon à ce que l'ensemble des croisiéristes, ces derniers bateaux, repartent aux alentours de minuit, puissent profiter du spectacle. Et d'ailleurs, à l'époque où on faisait le concours avec mes associés Berthelot, Moka et Marton, on se disait aussi qu'il fallait pour ce bâtiment une échelle capable de dialoguer avec ces bateaux. Et puis, il nous plaisait à dire que on est là dans notre petit pays et puis tout d'un coup assis par terre sur notre île et puis on regarde passer ces gros paquebots illuminés et tout d'un coup on se disait il faut renverser le système et maintenant il faut que ce soit eux qui nous regardent. Et aujourd'hui c'est assez réussi parce que le soir quand on est ici, les bateaux passent et les flashs crépitent.
Toute l'équipe des architectes a été placée sous la direction de Pascal Berthelot. Lui aussi revient sur la force symbolique de l'implantation de Memorial Act.
C'était l'usine de Darboussier qui, à la fin du 19e siècle, a commencé et a favorisé dans la ville une autre industrie. Et donc ici, nous prenons le pas, nous changeons la donne, nous disons qu'avec le culturel, nous pouvons à la fois attirer des gens de l'extérieur pour intéresser à notre cause et intéresser à cette histoire multiple et en même temps favoriser la population locale en lui donnant un outil supplémentaire pour bien comprendre son passé et pour progresser vers l'avenir.
Il y a donc un dialogue avec la mer et avec les continents lointains de l'autre côté de l'océan, un dialogue avec les racines de la Guadeloupe vraiment et l'intérieur des terres et toute cette agriculture qui a été tellement pénible pendant tant de siècles. Il y a aussi un dialogue avec le ciel d'une certaine manière. Il y a un rapport intérieur-extérieur permanent dans votre architecture.
Mais oui, parce que nous sommes sur des symboles. Nous sommes sur des choses qui sont des symboles qui sont à la fois universels et en même temps qui nous intéresse aussi, nous qui venons de ces nations afro-caribéennes. Nous interpellons avec le poteau mitant qui est à l'intérieur du hall, nous interpellons l'ensemble de nos rites, l'ensemble de nos usages, l'ensemble de nos coutumes, et en même temps nous sommes sur des symboles universels, car l'arbre était dans la Bible, déjà chez Jacob on le décrivait, et quelque part cette recherche de racines est une recherche identitaire propre à tous les peuples. Et donc quelque part, voilà, c'est ce que nous voulons faire, un message qui d'abord adressé aux nôtres et ensuite adressé au monde.
On entend les danses et la musique derrière vous. Il y a ce soir une fête pour tous les ouvriers qui ont participé à ce chantier.
Voilà. Depuis le début, c'est un honneur pour l'ensemble des ouvriers de travailler sur ce chantier. J'ai personnellement des photos de gens qui posent dès les fondations en disant, voilà, je suis là, je suis fier d'être là, j'y étais, voilà. Et donc, quelque part, c'est un juste retour de l'histoire, c'est une sorte de réparation, parce que le débat est très houleux en ce moment. Voilà, nous sommes dans la création d'un outil qui va nous permettre d'aborder l'avenir.
Ce qu'il faut dire, c'est que le concours d'architecture englobait non seulement l'architecture elle-même et le paysage, bien entendu, mais aussi le projet scénographique qui est dédié à la mémoire de l'esclavage. On va visiter cette exposition ensemble dans un instant. Alors, on va parcourir cette scénographie très, très spectaculaire qui mêle les collections historiques à des œuvres contemporaines. Ça, c'est l'autre aspect de Memorial Act. Le commissaire en charge de cette partie contemporaine s'occupe aussi des expositions temporaires. Il s'appelle Jean-François Manicomme. Il est aussi commissaire général du Festival caribéen de l'image au Memorial Act.
Nous sommes dans la partie exposition du festival, mais le festival va se tenir avec des conférences, des tables rondes, des ateliers où des photographes de Cuba, de République dominicaine, des curateurs de Dominique, nos voisins martiniquais, et le public guadeloupéen est convié à des réflexions, des tables rondes sur l'image, sur l'identité, sur la création d'une esthétique caribéenne, d'une volonté caribéenne de fabriquer de l'image. Et le fait que ce festival devienne une biennale permettra d'être le lieu de rassemblement régulier et d'être une force de proposition visuelle pour la Caraïbe.
L'exposition temporaire n'est pas constituée de parties distinctes, puisqu'au contraire, elles sont toutes imbriquées, mais il y a des composantes, disons, une composante mémorielle avec quelques très vieux clichés, une composante identitaire avec l'image de la famille guadeloupéenne spécifiquement, et puis toute une partie, peut-être la plus stimulante, consacrée à la création et à la recherche formelle, visuelle, esthétique, émotionnelle.
Tout à fait, nous avons fait le choix, le parti pris, hein, d'attaquer l'image et l'image de la Caraïbe par les deux bouts, c'est-à-dire par l'extrêmement vieux et par l'extrêmement neuf, et de façon simultanée. Donc on a effectivement une partie dans laquelle les créateurs guadeloupéens, caribéens, ceux qui manipulent l'image, qui la tordent, qui la composent, qui l'imaginent, qui la rêvent, qui travaillent avec des téléphones, des appareils argentiques, des objectifs grattés, enfin tous ceux qui ont une démarche contemporaine sont présents, on les a sélectionnés, ils sont présents, mais également là d'où on vient, c'est-à-dire les premiers clichés qui ont donné à montrer la Caraïbe. Alors ce sont des clichés qui ne sont pas faits par nous, caribéens. Ce sont des stéréo-views. C'est une collection qui était destinée à édifier les Américains à l'époque où il n'y avait pas encore le National Geographic, pas encore de radio, pas encore de télévision, pas encore de cinéma. À l'époque des stéréo-views que vous voyez là, les journaux ne savent pas encore imprimer de photographies. Donc il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe ailleurs. Et donc nous avons la chance d'avoir ces stéréo-views qui sont la représentation, la façon dont on pouvait voir la Caraïbe en 1897, en 1902. Voilà, donc les deux extrémités, le plus contemporain, le plus ancien. Et puis à côté, effectivement, la façon dont la famille guadeloupéenne se donne à voir actuellement, en 2015, quand elle passe, quand elle convoque, quand elle sollicite un photographe professionnel.
Alors, nous allons aller bientôt visiter le cœur même de l'exposition et revivre cette terrible histoire de l'esclavage.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Le Mémorial Act, le centre consacré à l'esclavage et à la traite négrière, ouvre ses portes à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe et vous étiez sur place, Franck Ferrand.
On peut dire qu'au cœur de Mémorial Act, nous aurons eu le meilleur des guides, l'anthropologue Thierry Létang, qui nous parle des collections présentées à Pointe-à-Pitre.
L'idée, le concept même, le parcours même scientifique a été défini avant même l'apparition des objets. Donc là, les objets collent à l'idée. Ils illustrent un concept historique, un module historique. C'est pourquoi on parle plutôt de centre d'interprétation et non de musée.
Nous sommes là à la proue d'un navire pirate.
Oui, corsaire, pirate, enfin, forban peut-être même. Oui, ces Européens non espagnols, hein, qui arrivent quelques décennies après Christophe Colomb, parce que dans la zone, il y a de l'or, il y a un trafic d'or, il y a des convois. Ça attire du monde et ça attire des privés. Alors, c'est une grande facilité pour François Ier, par exemple, ou Élisabeth, hein, en fin de siècle, de lancer ses chiens de mer en dehors d'une guerre officielle, hein, qui vont tenter donc de grappiller l'or espagnol. Et en même temps, ils vont s'accoutumer peu à peu aux Antilles. Alors, beaucoup de contrebande également, quelquefois un trafic négrier clandestin. Mais en tout cas, en arrivant aux petites Antilles, ils vont faire, sur quelques décennies, ami-ami avec les Kalinagos, les Caraïbes, qui sont sur place et qui sont également ennemis des Espagnols. Hein, ces ennemis-là qui sont intéressants parce qu'ils ont du fer, ils ont des haches, ils ont des perles, des choses intéressantes à troquer et qui sont très demandées. Alors, petit à petit, l'Européen se fait au tabac, qui est ici une plante sacrée, hein, et qui devient peu à peu profane dans les ports d'Europe, d'Angleterre. L'Europe s'intoxique, la demande se fait de plus en plus forte au niveau du début du XVIIe siècle. Le prix de la poudre de tabac, qui est plutôt inhalée, est égal à la poudre d'argent. Donc une très forte demande, et vers les années 1600, 1620, ces anciens pirates, hein, ces pirates, ces corsaires, ces forbans, vont se transformer en planteurs de tabac. pour satisfaire la demande croissante en Europe. Ils vont installer des petites habitations de quelques hectares de tabac avec ce qu'on appelle les engagés ou les 36 mois, qui sont des blancs comme eux, mais bon, des serviteurs qui véritablement sont mis pratiquement à l'esclavage durant 36 mois. Et qui sont, une fois leur temps passé, qui peuvent être des hommes libres, qui vont commencer à implanter des colonies, d'abord dans la colonie mère de Saint-Christophe, où anglais Thomas Warner, l'anglais, et Pierre Belin d'Enambuc, un normand de cadet de famille, s'installe en 1626 et développe donc la première colonie française des Antilles, des petites Antilles.
C'est donc l'origine de ces plantations et de leur modèle économique en quelque sorte.
Oui, alors c'est un modèle économique qui va durer à peine deux décennies, puisque rapidement tous les Européens font des colonies et ils font tous du tabac, de sorte que le cours du tabac va chuter. Et vers les années 1654, des Hollandais, protestants, juifs, chassés de Pernambouc, du Brésil, s'amènent ici à plusieurs centaines, voire plus d'un millier, en Guadeloupe, Martinique, et savent, eux, connaissent la technologie de non seulement de la plantation de la canne à sucre, mais de la façon de blanchir ce sucre, et véritablement vont installer l'économie sucrière dans les petites Antilles, en Guadeloupe, Martinique, Barbade, Curaçao, etc. Et à partir de là, donc, c'est le début des plantations de canne à sucre qui nécessitent nécessairement, parce que beaucoup de main-d'œuvre, une traite négrière. C'est vers 1670-75, les débuts de la traite négrière transatlantique régulière française.
Alors, il faut imaginer que sur place, tout ça est mis en scène, hein, bien entendu. Vous avez des alvéoles, des grands écrans partout, des vitrines avec des objets. C'est très vivant, on a l'impression d'y être. Et au cœur du dispositif, un immense couloir.
Nous sommes dans la nef centrale, dans une sorte de très haut et long couloir qui traverse littéralement les collections permanentes du mémorial.
Oui, qui distribue de part et d'autre les modules historiques et qui est orné au plafond d'une espèce de Hall of Fame, des hommes enfin, qui ont construit cette histoire.
Une galerie de portraits.
Et ceux qui ont lutté contre cet asservissement, cette réification de l'homme qui est l'esclavage. Mais pas seulement.
De Las Casas à Victor Schœlcher.
À Martin Luther King, à Rosa Parks, enfin tous les hommes qui constituent notre ciel étoilé, nos stars.
Un des alvéoles sombres de cette exposition permanente. Nous sommes devant une version très agrandie du Code Noir. Le terrible et célèbre Code Noir de Colbert, et nous avons sous les yeux des instruments d'asservissement et même de supplice, avec des fouets, avec des fers.
Bien sûr, parce que ce code est soutenu par un système répressif très clair, hein, et très dur. Alors, les déviants, les esclaves qui vont dévier de la course qui leur est assignée, vont être confrontés à cette répression qui sera très dure, particulièrement pour ceux qui lèvent la main sur un membre de l'élite dominante, qui sont condamnés à mort, hein, s'ils sont marrons, s'ils sont révoltés avec violence. Mais quotidiennement, ils peuvent, pour la moindre faute, hein, puisqu'il y a bien un code noir, mais en réalité, l'esclave est soumis à l'arbitraire total du maître. Alors pour une simple faute, l'esclave peut être mis au fer, hein, on lui met des entraves, il peut être battu, il peut être fouetté, il peut être mis au cachot. En bref, il y a une panoplie assez édifiante et des instruments donc, qui soutiennent cet arsenal répressif qui sont très durs. Hein, même si on prend soin de ne pas trop endommager ce bien meuble. Qui est l'esclave, puisqu'il doit continuer à travailler, mais en réalité, malgré le code noir édicté, le maître est tout puissant.
Alors, au détour d'une salle, vous avez d'un seul coup une grande maquette représentant des collines très boisées, telles qu'on peut en voir en basse terre. Qu'est-ce que c'est que cette maquette ?
Il s'agit d'une maquette du fameux camp des Killers, voire des Killers. Ce sont des marrons qui ont résisté pendant plusieurs générations, hein, 18e siècle, début du 19e siècle, dans les hauteurs des montagnes de la Basse-Terre. Et ils ont été localisés à plusieurs reprises au niveau des mamelles, hein, des deux mamelles, qui se trouve donc en plein milieu de la Basse-Terre. Alors là, on voit une reconstitution hypothétique, parce qu'il nous reste encore à retrouver ce camp, selon les témoignages des quelques rares individus qui y sont passés.
Les habitations sont très clairsemées, il y avait peu de monde quand même là.
Il y avait peu de monde. On ne sait pas s'il s'agit d'un seul camp, mais certains témoignages du début du 19e nous disent qu'ils peuvent être un millier de gens, mais peut-être qu'ils avaient plusieurs petits camps. Hein, quand un tombe, il y en a un de retrait dans des montagnes touffues où il s'échine à survivre, hein, en marge de la société d'habitation. Mais en tout cas, ces révoltes et ces marronnages, ces tentatives de fuite, voire d'établissement de sociétés parallèles, ont parsemé toute la période esclavagiste, depuis le premier convoi de traite négrière jusqu'à l'abolition, jusqu'aux abolitions, qu'elles se passent au Brésil, au Venezuela, au Suriname, ou comme ici, aux Antilles françaises.
L'Église catholique a longtemps cautionné d'une certaine manière le système esclavagiste.
Bien sûr, elle a cautionné, même avant la colonisation, la conquête d'abord, la colonisation, et le système esclavagiste pendant toute sa durée. Mais ce qu'il faut dire également et reconnaître et le mettre au profit du génie du christianisme, s'il y en a un, c'est que sur 10 ecclésiastiques, il y en a toujours un qui a pris fait et cause pour le dominé, pour le souffrant. Et c'est de là que des écrits de ces premiers ecclésiastiques, de Las Casas, de Fray Montesinos, que naissent les premières foucades des droits de l'homme, hein, qui vont au cours des siècles se laïciser et devenir quelque chose de... Mais au départ, c'est à eux que nous devons cette avancée.
Il y a évidemment, Thierry, il y a plusieurs types d'abolition. Il y a d'abord l'abolition de la traite, l'abolition de l'esclavage en tant que tel. Et puis, il y a eu aussi, dans le cas de l'histoire de France, un retour en arrière, en plein milieu de la Révolution, ou à la fin de la Révolution à proprement parler.
Et oui, il y a la première abolition que nous devons à la Première République, qui se concrétise ici en Guadeloupe en 1794, quand l'envoyé de la Convention, me semble-t-il, Victor Hugues, gagne l'île sur les Anglais, qui, eux, sont monarchistes et esclavagistes. Alors, cette abolition va durer 8 ans et sera rétablie in fine, c'est-à-dire en 1802, par l'illustre Napoléon.
Par Bonaparte, à l'époque,
oui, le premier consul. Ensuite, donc, re-esclavage jusqu'à 1848, où là, on assiste à l'abolition définitive de l'esclavage par la Seconde République.
Il est extraordinaire, ce Thierry Létang. On l'écouterait comme ça une après-midi entière. Alors, je lui ai posé la question du creuset culturel extraordinaire que représente cette région des Caraïbes.
Ce qui est fascinant avec ces îles des Caraïbes en général, et notamment avec les petites Antilles, c'est le creuset, le bouillonnement culturel invraisemblable que les circonstances des siècles les ont obligés de devenir, en quelque sorte. On est ici dans un vrai bouillon de culture, dans un creuset, avec l'apport de civilisations, de cultures, d'habitudes, d'ethnies totalement différentes qui arrivaient des quatre coins du monde.
Oui, en réalité, c'est la construction du nouveau monde. Dès Christophe Colomb, le monde, les parties du monde percutent ici, dans ce carrefour-là. Donc, des influences multiples, asiatiques, américaines, européennes également, africaines, tout cela se mélange et finalement nous constitue. Hein, il n'y a pas d'atavisme ici. Tout est fait pratiquement de ces 500 dernières années. Mais il ne s'agit pas d'une sauce où le poivre, le sel surnagent côte à côte, d'une mosaïque. Il s'agit d'une fusion de ces éléments initiaux et qui crée en réalité quelque chose de nouveau.
Un mouvement qu'on ignore généralement ou qu'on ne veut pas mettre en avant, c'est le retour en Afrique d'un certain nombre d'esclaves qui étaient venus d'Afrique plusieurs générations auparavant.
Oui, qui est symbolisé beaucoup par le Libéria, hein, ce territoire africain, cette partie de Sierra Leone, hein, qui sera dévolue par les Anglais et les Américains aux anciens esclaves affranchis qui vont retraverser l'océan là.
D'où ce nom de Libéria.
De Libéria, mais également après 1848 et du côté français, il y a des Guadeloupéens, plusieurs centaines, enfin d'anciens esclaves de Guadeloupe qui vont retourner en Afrique. Il y a des quartiers du Nigeria, de Lagos, qui s'appellent Guadeloupe et Martinique. Et il y a également beaucoup de Brésiliens qui sont retournés. Alors c'est à Ouida, le quartier brésilien de Ouida, et il y en a beaucoup également à Lagos et au Nigeria.
Était-ce une terre promise et est-ce que la promesse a été tenue?
Alors, that is the question. Il semble qu'ils aient été en butte à quelques difficultés et peut-être et reproduit en Afrique quelques schémas mentaux plutôt de l'ordre de néocolonisateurs. Mais en tout cas, cette expérience-là est encore en vigueur, par exemple, dans le panafricanisme du mouvement Rastafari, hein, qui réclame un retour d'exil à la terre promise. Bref, elle existe toujours, est toujours maintenue, la flamme est toujours là.
Il faut évoquer la grande figure de ce panafricanisme, peut-être.
Oui, alors c'est Marcus Garvey, c'est la Black Starliner, c'est cette compagnie de paquebots, hein, et de cargo qui devait ramener des milliers et des milliers d'Afro-Américains, principalement des Américains du Nord, des Noirs américains, en Afrique, hein, mais qui s'est un petit peu soldé par... qui n'a pas été mise en effectivité par Marcus, parce que, bien sûr, il a rencontré d'énormes difficultés.
Il y a une fierté africaine, une fierté noire, ce qu'on va appeler avec Léopold Sédar Senghor, la négritude. C'est un mouvement qui a sa place ici, bien entendu.
Bien sûr, il y a un module consacré à la négritude et surtout au congrès de la Sorbonne de 1956, où pour la première fois, des intellectuels noirs, africains, nord-américains, antillais, sud-américains vont être réunis pour faire un petit peu... Il est question à ce moment-là de faire l'inventaire des cultures noires du monde. Et non, la négritude a été un mouvement très important pour nous, de revalorisation, de fierté, et puis a accouché d'autres mouvements ultérieurs.
Merci beaucoup à Thierry Létang et à l'ensemble des équipes de Mémorial Acte. Merci à l'Office de tourisme également des îles de la Guadeloupe, à la SEM Patrimoniale, à Christelle Moreau et à l'agence Claudine Collin. Ce sont eux qui nous ont permis d'aller sur place faire ce reportage et vous faire visiter presque comme si vous y étiez cet extraordinaire centre, hein, ce Mémorial Acte. Il faut vous dire que jusqu'au 12 juillet prochain, le tarif est à 5 euros. Après, ça montera un petit peu, mais c'est le moment ou jamais. Si vous êtes en vacances aux Antilles, n'hésitez pas, ça vaut absolument le détour.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et Franck Ferrand, vous répondez à la question de Michel via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Comment sont dénommés les bâtiments dont le style architectural évoque la fonction?
Alors, on a beaucoup cherché, parce que j'aurais bien aimé pouvoir apporter une réponse à Michel, mais pour tout vous dire, ça ne porte pas de nom particulier. Simplement, il y en a pas mal de ces édifices, hein. Je pense évidemment le plus célèbre peut-être de tous, c'est le monastère San Lorenzo de l'Escorial, hein, l'Escurial, comme nous disons nous, à côté de Madrid, qui a la forme d'une grille, d'un grill, parce que c'est l'instrument de torture de Saint Laurent. Pourquoi? Parce que ce monastère, il a été bâti pour évoquer Saint Laurent et pour la bataille de Saint-Quentin en 1557 qui avait eu lieu le jour de la Saint Laurent. Il faudrait parler de la colonnade du Berlin à Rome en forme de bras accueillant d'une certaine manière. Bien entendu, les plans de Dominique Perrault pour la bibliothèque François Mitterrand, hein, qui représentent des grands livres ouverts, etc. Il y en aurait beaucoup d'autres. On pourrait dire un mot de Mémorial Acte également, mais ça nous fera une occasion d'en reparler un de ces jours.